Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Chez nous, dès lors qu'on voit quelqu'un qui il boit pas, il fume pas, il gagne son argent, il veut faire quelque chose, on dit il est corrupteur, il est corrompu et tout, je ne sais pas qui est corrompu et qui est corrupteur. Il y a sûrement, il y en a.
Vous en connaissez?
Mais je vous le dirai pas si j'en connais.
Omar Bongo Ondimba. Rarement homme politique africain n'aura suscité autant de commentaires dans la presse francophone. Rarement dirigeant africain n'aura autant bousculé et influé sur les dirigeants français depuis la mort du général de Gaulle. Caricaturé, dénoncé, décrié par les médias, il menaçait de faire tomber la 5e République. Pendant 42 ans, il aura dirigé le Gabon. Petit pays d'Afrique centrale qu'il aura, il faut l'avouer, fait connaître sur le plan planétaire. Tant sa diplomatie était active et sa communication efficace, tout comme son style singulier.
Au nom de notre organisation, je lance un appel solennel à tous les États membres pour qu'ils intensifient leurs assistances diplomatiques, financières et matérielles au mouvement de libération nationale reconnu par l'OIA. Au nom de l'Afrique indépendante, je lance aussi un appel pressant à tous les dirigeants des mouvements de libération pour qu'ils transcendent leurs querelles personnelles et s'unissent autour d'une même bannière pour combattre leurs ennemis communs.
Après à peine une dizaine d'années à la tête du Gabon, et là, Omar Bongo accueille en ce mois de 1977 le sommet de l'Organisation de l'Unité Africaine, l'OUA. Le Gabon, à ce moment-là, est au fait de sa gloire. Grâce aux importants revenus multipliés par le choc pétrolier de 1973, il a changé le visage de son pays, qui ressemble désormais à un vaste chantier à ciel ouvert. On parle même de plus en plus du miracle gabonais. Ce qui, bien sûr, séduit ses pairs ou en tout cas impose du respect. Mais il a également gagné leur confiance, leur soutien, leur amitié en déployant une intense activité. C'est donc l'essentiel des membres de cette organisation qui a effectué le déplacement de Libreville où l'on parle de solidarité continentale mais également de soutien aux nombreux mouvements de libération nationale qui se battent encore sur plusieurs territoires pour accéder à leur tour à l'indépendance. Oubliez les errements du Biafra. Où sous la pression de Paris, son pays servait de base pour armer et former les rebelles sécessionnistes. Oublié, au moins en partie, le jeune directeur de cabinet surveillé et conseillé par les hommes de Jacques Foccart, le monsieur Afrique du général de Gaulle. L'homme du 18 juin 40 est mort. Son successeur, Georges Pompidou également. Le nouveau locataire de l'Élysée, Valéry Giscard d'Estaing, même s'il a remplacé le patron de la cellule africaine de la présidence française par un homme, l'un des adjoints de Foccart, n'a pas le même poids que le général de Gaulle. Il ne connaît pas autant l'Afrique et sait l'importance du Gabon dans la politique énergétique de la France. Il sait qu'il doit ménager le président Bongo qui a pris de l'assurance et tellement de confiance qu'il est même parvenu à imposer que son ambassadeur, Maurice Delaunay, ne soit pas muté. Mieux, il va obtenir quelque temps après, toujours de Valéry Giscard d'Estaing, le remplacement de celui-ci par un proche, un homme de réseau, Maurice Robert. C'est dit combien les relations entre Paris et Libreville ont évolué. On ne lui impose plus les conseillers français, non. C'est Bongo qui semble choisir désormais ceux avec qui il veut travailler.
Pour le Gabon qui doit faire face en très peu de temps à un effort d'équipement absolument fantastique pour valoriser ses matières premières, l'aide de la France dans ce domaine sera précieuse. Les relations de coopération entre la France et le Gabon sont appelées à évoluer. Les deux présidents ont décidé de lui donner une dimension nouvelle, mais en prenant d'ores et déjà une large part au développement de ce pays auquel tout semble promis, la France renforce ici une position déjà particulièrement privilégiée.
Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée au président Omar Bongo Ondimba.
J'ai visité un peu cette ville et je vois que jusqu'à la cité des ouvriers d'Elf Gabon, il n'y a pas un boulevard. Alors voilà ce que je vous demande de faire. C'est un boulevard que vous devez faire. Cette route, elle sera éternelle. Nous pourrons la baptiser boulevard Belfe Gabon.
A été menacé?
Non, 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 je dis tout dernièrement, je suis même obligé de quitter Libreville pour aller me reposer parce qu'il fallait aller au jeu de Moscou, au jeu de Moscou. J'ai beau dire, je n'ai pas d'athlète. Donne-moi d'abord l'équipement, formez-moi d'abord des athlètes et puis j'irai là-bas. Mais j'ai été formé par le français. Je connais le français, je sais ce que le français est capable de faire. Les français aussi savent ce que le président Bongo, jusqu'où il parlait, ce qu'il est capable de faire. Donc, on s'entend, on discute, on se comprend. Et sans rancœur. Mais avec les Russes ou certains pays de l'Est, ils veulent que vous soyez ceci, il faut que vous criez, vous devez crier. Quand vous leur dites pourquoi je veux crier, vous devenez un déviationniste ou un défaitiste. Alors, moi, toutes ces histoires, franchement, je veux coopérer avec tout le monde, mais à condition que mon libre arbitre ne soit pas mis en cause.
Cette période où tout le monde, toutes les grandes puissances font une cour assidue au Gabon pour pouvoir bénéficier d'une part de cette importante manne pétrolière, ne va pas durer bien longtemps. L'économie du tout pétrole montre très vite ses limites avec la baisse des cours. Le Gabon rentre aussi vite en récession qu'elle avait connu la richesse. La situation est d'autant plus compliquée qu'elle a installé de mauvaises habitudes. La gestion de la finance publique est des plus dispendieuses. Et lorsque les ressources pétrolières qui représentent plus de 70% des revenus sont impactées par la crise, c'est le pays tout entier qui connaît des difficultés. Il faut rapidement remettre de l'ordre dans tout cela. C'est à cela que le président s'attelle désormais dans ce territoire où l'eau de l'Okoumé, c'est ainsi qu'on y a baptisé le champagne, est entrée de plein pied dans les salons. Mais seulement dans les salons des plus nantis, des proches du régime. Parce que le système de redistribution n'est pas des plus équitables et des plus élargis. Cette crise marque un petit coup d'arrêt dans le développement de cet émirat pétrolier. Le président Omar Bongo va imposer un certain nombre de mesures pour réduire le train de vie de l'État. On parle de politique d'austérité. Il faut également rassurer Paris, lui donner des gages dans cette période où les pays producteurs de pétrole font monter les enchères. Il est prudent dans cette crise qui fait naître des contestations d'avoir le soutien de son principal allié.
Si la production de l'Iran et de l'Irak est rendu impossible, il est fort probable que certains pays profitant de la situation vont encore demander des augmentations. Déjà hier, je lisais dans un journal, je ne sais lequel, où on dit les Nigeria, la Libye, l'Algérie vont demander 3%, 33 dollars de plus par baril.
Et vous, vous n'êtes pas d'accord avec ces augmentations?
Ben, j'estime, franchement, ce n'est pas que je ne sois pas d'accord pour avoir de l'argent. C'est de l'argent que je vais encaisser. Mais je crois que c'est trop. Il ne faut pas non plus, comme je l'ai toujours dit, asphyxier les pays non producteurs de pétrole. Il ne faut pas que le pétrole aussi serve comme une arme qu'on doit brandir chaque fois que l'occasion se présente.
Au Gabon, cette crise économique qui a aggravé la pauvreté des moins nantis suscite naturellement une certaine contestation. Une opposition politique voit le jour en ces débuts de la décennie 80. Bongo a certes été élu avec les mêmes scores fleuves de ses années de parti unique et candidat unique, mais la contestation commence à gronder. Omar Bongo ne peut accepter le développement de cette opposition. Il fait arrêter les leaders, ils sont jugés et condamnés à de lourdes peines de prison. Père Paul Mba, à Bessol.
Alors, c'est en 81, j'étais à Paris, lorsque j'apprends qu'au Gabon, on a arrêté un groupe de personnalités qui avait réclamé une ouverture démocratique au système. Et après ça, ils ont été arrêtés, condamnés à 20 ans de prison. Mais cela m'avait tellement choqué que j'ai pris contact avec les organisations de défense des droits de l'homme pour dire « mais c'est pas normal, ça peut pas se faire ». Et effectivement, on m'a envoyé une journaliste dans le couvent où j'étais pour me demander mon point de vue. J'ai marqué mon désaccord. On pouvait pas arrêter les gens, selon moi, parce qu'ils réclamaient l'ouverture, parce qu'ils réclamaient la démocratie. Et c'est comme ça, finalement, j'ai été happé dans cette affaire. Puisque tout le monde venait m'interroger, disait c'était sur l'aspect de la lutte pour la défense des droits de l'homme.
Cette contestation coïncide avec un autre événement. En France, pour la première fois, les gaullistes ont perdu le pouvoir. La droite a a été battu.
Les résultats qui me sont communiqués à l'heure où je m'exprime annoncent que les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, forces de création, forces du renouveau qui se sont rassemblées dans un grand élan national pour l'emploi, la paix, la liberté, thèmes qui furent ceux de ma campagne présidentielle et qui demeureront ceux de mon septennat.
François Mitterrand est le nouveau président de la France. Giscard d'Estaing a été battu et s'en va. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans les relations franco-africaines. Ceux qui arrivent aux affaires ne sont pas très connus des chefs d'État subsahariens. Le président Omar Bongo ne connaît pas vraiment celui que le nouveau chef de l'État français nomme aussitôt à la tête du ministère de la Coopération, Jean-Pierre Cotte. Aux idées de gauche bien affirmées, mais qui n'est pas un spécialiste de l'Afrique. Il s'intéressait jusque-là plutôt aux affaires européennes. Jean-Pierre Cotte qui, d'entrée de jeu, critique la relation qui existait jusque-là entre la France et ses anciennes colonies.
Je crois que nous avons manqué de rigueur avec nos partenaires. Nous n'avons pas eu le courage de leur dire quand ils faisaient de bêtises. Il y a un minimum de respect des droits de l'homme sur lequel nous devons être tout à fait intransigeants. Ce qu'on appelait la sûreté dans notre vieux vocabulaire révolutionnaire, c'est-à-dire le droit de ne pas être assassiné, le droit de ne pas disparaître, le droit de ne pas être torturé, le droit de ne pas être emprisonné arbitrairement pour ses opinions. Ce minimum-là, partout où nous allons et partout où nous discutons, nous le disons, nous le défendons, nous le faisons avancer et le cas échéant, nous en tirons des conséquences.
Il faut donc démanteler le système, le réseau Focard. Il faut en finir avec ceux qui le symbolisaient. Jean-Pierre Cotte.
Il y avait une volonté de notre part qui était évidemment de changer la politique africaine de la France et même une certaine obsession de la France-Afrique liée aux Barbouzes. Et donc nous avions de ce point de vue-là un souci qui était un petit peu de faire le ménage.
Faire le ménage. L'une des premières décisions spectaculaires pour marquer la rupture, le rappel de l'ambassadeur de France au Gabon. Maurice Robert, qu'Omar Bongo avait imposé sous Giscard d'Estaing.
Je considère comme un honneur d'avoir viré Maurice Robert, d'avoir obtenu qu'il soit viré plus tôt. Il symbolisait une période que nous considérions comme dépassée.
Mais le président Omar Bongo n'est plus homme à se laisser ainsi intimider ou dicter des collaborateurs ou des ambassadeurs, non. Il ne peut accepter de laisser partir Maurice Robert le Barbouze, qu'il a récupéré chez Elf pour en faire un ambassadeur plus conciliant. C'est le blocage. Maurice Robert est maintenu à son poste pendant quelques mois. Il faudra attendre le voyage à Paris du président Bongo et le déjeuner qu'il va prendre avec François Mitterrand en présence de Maurice Robert pour que soit mis fin à sa fonction. D'ailleurs, son successeur, Robert Cantoni, ne tiendra pas 10 mois à son poste. Seulement, François Mitterrand n'est pas vraiment un proche. Même si lui aussi et son parti ont bénéficié, comme l'ensemble des mouvements politiques français, des financements africains, notamment à travers ELF, il n'a pas de relation amicale personnelle avec le chef de l'État gabonais. Et son monsieur Afrique, Jean-Pierre Cotte, ne s'encombre pas des traditionnelles tournures diplomatiques pour critiquer les dirigeants africains pas trop ouverts à la démocratie. Bien sûr, la presse fait largement l'écho de ses propos, mais également d'une opposition qui tient à profiter de cette opportunité de changement pour le bousculer. L'un des sous-mouvements est le Morena, le mouvement de redressement national, né en 1981 dans la clandestinité au Gabon. Ses principaux leaders vont être arrêtés et condamnés. Mais ces arrestations ne mettent pas fin aux activités du mouvement qui s'organise à partir de 1982 à l'extérieur. Une opposition virulente qui bénéficie un peu plus cette fois-ci de l'attention des médias. Le père Paul Mba Abessol fait partie de ceux qui étaient installés en France et qui critiquaient le régime.
J'ai commencé à lutter donc en 82, bon, avec les tracts, tout ça, le Gabon, l'économie, l'action sociale, enfin, etc.
Novembre 81, un groupe d'opposition essaie de se constituer avec à sa tête un ancien recteur de l'université et un ancien ministre. Ils diffusent des documents hostiles au président de la République et sont emprisonnés. Jugés il y a 2 mois, ils sont condamnés à 20 ans de travaux forcés.
Voilà la prison. Vous verrez qu'ils sont gros et gras comme des grands bourgeois. Vous pensez qu'en 15 ans de pouvoir, c'est pour la première fois. Mais ils savent très bien que notre constitution prévoit un parti unique.
L'écho ainsi donné par les médias de ces arrestations, de ces condamnations, de ces critiques, de ces dénonciations agace singulièrement le président Omar Bongo qui y voit une manipulation, une tentative de déstabilisation de son régime. Pour Bongo, c'est un complot de la gauche, une manipulation de l'Élysée qui veut se débarrasser de lui. Et sa réaction est sans ambiguïté.
Si un journal français m'attaque, un journal gabonais attaquera Mitterrand. Ah, c'est fini cet état des choses.
Surtout que Omar Bongo, homme de contact et de communication, a créé lui aussi à Libreville sa radio, Africa numéro 1, qui émet en ondes courtes sur une bonne partie du continent. Ou plus exactement, il a, avec le concours de la France, plus précisément de la Société de financement des radios, la SOFIRAD, société à capitaux publics français, s'appuyant sur ses émetteurs de Moyabi, monté la première radio généraliste internationale africaine. Un média qui connaît au début un franc succès auprès des Africains qui ont là une alternative à la puissante presse occidentale qui avait jusque-là le monopole. Omar Bongo, donc, a son média, Africa numéro 1. Il a l'outil pour répondre aux attaques dont il fait l'objet. Mais il a aussi l'instrument pour rayonner sur le continent, pour passer son message. Mais à Paris, François Mitterrand, qui a bien compris qu'il ne peut ainsi se passer du pétrole gabonais, qu'il ne peut pas non plus mettre un terme à ces réseaux qui ont toujours régi la relation entre Paris et l'Afrique, choisit de tempérer les envolées, les critiques de son ministre Jean-Pierre Cotte. Il installe dans le bureau de Jacques Foccart un proche, un ami, le chirurgien-dentiste Guy Pen. C'est lui qui doit donc mener la diplomatie parallèle de la France en Afrique. Son principal atout, son appartenance à la franc-maçonnerie à laquelle sont liés de nombreux dirigeants africains. Il s'appuie sur ce levier qui semble si important pour ses chefs d'État. Maurice Robert, ancien agent des services secrets, proche de Jacques Foccart et ancien ambassadeur de France au Gabon.
Monsieur Pen a utilisé son réseau franc-maçon. Vous savez que tous les responsables africains appartiennent à une loge maçonnique, ils adorent ça les Africains, pour eux c'est des trucs secrets, là, vous savez c'est l'Afrique mystérieuse. Et alors, ils ont utilisé ce réseau, bon, c'était leur droit le plus absolu, hein, et pour reprendre, si vous voulez, l'influence qu'ils n'avaient pas encore récupérée.
Mais Guy Pen ne s'appuie pas que sur ce levier franc-maçon, non. Il a également de bonnes amitiés dans le réseau de Jacques Foccart et bénéficie même de leur soutien. En gros, il est dans la continuité de ce qui existait. On a donc d'un côté le discours droit de l'homiste, très pro-tiers-mondiste, très soigné et propre, de Jean-Pierre Cotte. Et de l'autre, plus feutré, plus arrangeant, plus discret, celui de Guy Pen, le réalisme politique des réseaux en collaboration directe et étroite avec les chefs d'État africains, celui qui conforte les régimes en place en somme, les régimes soucieux de la sauvegarde des intérêts de la France. François Mitterrand joue donc désormais sur les deux tableaux. Mais il va devoir rapidement, sous le poids des dirigeants africains, notamment d'Omar Bongo, qui manifeste son agacement face aux propos jugés peu respectueux de Jean-Pierre Cotte, choisir.
Monsieur Christian Nucci est nommé ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé de la coopération et du développement, en remplacement de monsieur Jean-Pierre Cotte.
Jean-Pierre Cotte, le droit de l'homiste, celui qui voulait revisiter les relations entre Paris et les régimes africains, a été débarqué. La France-Afrique a eu raison de lui. Les relations entre le président Bongo et la gauche mitterrandienne connaissent donc une courte éclaircie en cette moitié de la décennie 80. Il en parle.
Tous les gens ont toujours été le même, ils sont peut-être très bonnes maintenant même. Mais c'est vous, les journalistes, qui racontez des histoires. Mais à notre niveau, nous pensons que les relations sont toujours très excellentes, très bonnes.
Mais cette éclaircie signifie-t-elle que le président Omar Bongo a encore gagné sur la France-Afrique, qu'il est définitivement en train de transformer ses réseaux à son avantage, et que l'opposition naissante part perdante? Rien n'est moins sûr, comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal pour la suite. À très vite.
Les archives d'Afrique, Alain Foccart.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
La France.
France, effectivement, a fait une demande. Elle nous a demandé si on pouvait augmenter la participation. C'est pas la participation, j'ai le mot impropre. Si nous pouvons les revendre plus que nous ne les vendons. Eh bien, nous sommes d'accord. Je crois que nous allons leur vendre un peu plus de pétrole que nous le faisons jusqu'à présent.
Désormais, c'est El Hadj Omar Bongo qui décide aussi dans le domaine de la vente ou des accords pétroliers avec la France. Que de choses ont changé depuis 1967, ou pour protéger cette manne, pour ne pas la perdre, pour qu'elle soit l'un des éléments du dispositif de la politique énergétique du général de Gaulle, Jacques Faucard et l'homme du 18 juin 40 choisissaient ce jeune homme de 32 ans pour diriger ce petit émirat pétrolier d'Afrique centrale. En ce début de la décennie 80, les nombreux conseillers et barbouzes en tout genre qu'on avait installés auprès de lui, qui lui prodiguaient des conseils pour le compte de Paris, ont presque tous disparu. Les hommes de Jacques Faucard ont tous été remplacés avec l'arrivée au pouvoir en France en 1981 de la gauche. Et même si l'opposition naissante a réussi à faire vaciller pendant quelques semaines son régime, Omar Bongo semble retrouver un certain équilibre grâce au réalisme politique de François Mitterrand, qui a finalement choisi de ne pas priver son pays de cette importante manne pétrolière. Libreville a finalement obtenu le départ d'un ministre français de la coopération, Jean-Pierre Cotte, qui a été remplacé par Christian Nucci. Le président Bongo peut donc envisager de nouvelles relations moins tendues avec Paris, même s'il regrette la période de la droite.
Elles ont toujours été les mêmes, elles sont peut-être très bonnes maintenant même. Mais c'est vous, les journalistes, qui racontez des histoires. Mais à notre niveau, nous pensons que les relations sont toujours très excellentes, très bonnes.
Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée au président Omar Bongo Ndimba, qui a dirigé le Gabon pendant plus d'une quarantaine d'années.
Souverain pontife, parlant africain, je vous dirai tout simplement, au nom de Dieu miséricordieux, cette Afrique, comme vous l'avez souligné, n'est plus une Afrique. Il faut que cette Afrique se méfie. Vous êtes souverain pontife, les témoins vivants de ce que veut l'Afrique.
En cette fin d'année 1982, le souverain pontife Jean-Paul II est à Libreville. Le pape, le saint patron des catholiques, est chélanimiste, converti au catholicisme et désormais musulman, adepte de la franc-maçonnerie. Jean-Paul II ne s'est d'ailleurs pas contenté du grand meeting avec les masses chrétiennes de la capitale à la cathédrale Sainte-Marie et s'est rendu aussi brièvement à l'intérieur du pays. Un exploit, une grande marque d'amitié lorsqu'on sait combien il est difficile de le déplacer. Cela illustre tout simplement la force, l'efficacité de la diplomatie du président Omar Bongo. Laure Olgangonjou, proche collaboratrice du président Bongo, est plusieurs fois ministre.
Qu'est-ce qui fait que le président de la République était parvenu à étendre sa zone d'influence au-delà des frontières du continent africain? C'est d'abord son charisme, son humilité, sa gentillesse. Et puis, le président était un homme de communication, un homme de réseau. Et je pense qu'il ne se sentait heureux que parce qu'il avait ses contacts, ses liens, parce qu'il voulait se rendre en même temps utile.
Malgré la crise qui touche son pays depuis la fin de la décennie 70, il continue de développer une diplomatie particulièrement active. Omar Bongo est de tous les grands rendez-vous continentaux, et sa voix compte.
L'Afrique du Sud veut que les élections soient libres, que tout le mouvement, tout le parti participe à ces élections-là. Or, nous, au sein de l'OEA, nous avons dit, c'est la SWAPO qui doit conduire la Namibie à l'indépendance. Il ne faut pas dire, seule la SWAPO doit conduire la Namibie à l'indépendance. Il faut dire la SWAPO et les autres partis. Bon, et faire des élections libres.
Au sein de l'OEA, l'Organisation de l'Unité Africaine, Omar Bongo est l'un des piliers. Il a compris que pour sortir de la crise économique qui frappe le continent, il faut que l'Afrique soit unie, qu'elle constitue une force. Or, l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, reste, il faut le reconnaître, moribonde. Et les cotisations, il faut les payer. Parce que...
Si les chefs d'État ne prennent pas conscience de la survie de l'OUA, il est évident que l'OUA est appelée à disparaître. Ou bien, ça sera l'affaire de ceux qui ont de moyens.
Il propose sa médiation dans les conflits qui agitent de nombreuses nations africaines. Sur la guerre qui oppose la Libye et le Tchad, il s'implique singulièrement. Il va mener un intense ballet diplomatique dont la solution dépasse, selon lui, le simple cadre de l'Organisation de l'Unité Africaine, l'OUA.
L'OUA ne peut pas trouver une solution en ce qui concerne le Tchad. La solution, à mon avis, c'est d'abord la France, la Libye et les États qui faisaient partie de l'ex-AF. Lorsque mes collègues de Centrafrique, Congo, Gabon, nous nous trouverons avec les Tchadiens, je crois que nous trouverons une solution que nous pouvons proposer aux autres.
Avec le président Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, les liens sont très étroits. Il l'écoute et le consulte. Avec son voisin du Cameroun, Paul Biya, qui vient d'accéder à la tête de l'État à la fin de l'année 1982, les liens sont presque inexistants, mais sans être conflictuels. Question de tempérament de la part de son grand voisin, certainement. Mais ses amitiés s'étendent sur l'ensemble des régions du continent. Laure Olgangonjou, ancienne proche collaboratrice du président Omar Bongo, dont elle a d'ailleurs été, entre autres, la ministre des Affaires étrangères.
À l'époque, d'ailleurs, il va devenir ensuite président de la République, Monsieur Thabo Mbeki, Monsieur Zuma, fréquentait déjà Libreville, venait à Libreville assez souvent. Les liens étaient assez étroits.
Le roi Hassan II fait également partie de ses proches.
Concernant la relation entre Sa Majesté Hassan II et le président Omar Bongo Ondimba, je peux dire que c'était des frères, c'était des complices. Toutes les fois que nous avons accompagné le président de la République en séjour au Maroc, nous nous sommes sentis véritablement chez nous. Nous nous sentions respectés, nous nous sentions aimés.
C'est sur le plan international il rayonne, sur le plan intérieur, le début de cette décennie 1980 est beaucoup plus difficile. Avec la crise née de l'importante baisse des recettes pétrolières qui frappe son pays et la pression des institutions financières internationales telles que le FMI qui exige une plus grande rigueur dans la gestion de la chose publique, Omar Bongo est contraint à une politique d'austérité. Ce qui naturellement suscite le mécontentement de certains de ses compatriotes qui réclament de plus en plus une ouverture démocratique, un peu plus de liberté. L'idée inacceptable pour le chef de l'État et chef du parti qui le rappelle avec vigueur. Il ne faut même pas y penser. Omar Bongo.
Le Parti démocratique gabonais est un parti de masse. C'est le parti du peuple tout entier. C'est le parti des Gabonais tout entier mobilisé et organisé derrière le chef qui s'est librement choisi. Cela veut dire que pour servir la nation et l'État, il faudra être dans le parti et au sein duquel la discussion est totalement libre et le dialogue franc. Cela veut dire que plus que jamais, les tièdes, les éclopés du militantisme et surtout les indifférents qui attendent, je ne sais quelle parousie, doivent être inlassablement dénoncés pour ne plus avoir accès aux fonctions de confiance ou simplement importantes. Cela, je l'ai dit, nous devrons les chasser, nous devrons faire en sorte qu'ils quittent la fonction publique et partant l'État gabonais.
C'est clair, pour faire partie de la fonction publique gabonaise, pour aspirer à un poste, il faut appartenir au parti au pouvoir, au PDG RDA. Une idée qui passe mal dans cette période où la gauche, nouvellement arrivée au pouvoir en France, milite en faveur des droits de l'homme, en faveur de la libération des peuples. Déjà dès son arrivée, l'Élysée a transformé la SNEC, le service de contre-espionnage qui a tant servi sous Jacques Foccart, en direction générale de la sécurité intérieure, la DGSE. Il a nommé à sa tête un inconnu à Libreville, Pierre Marion, qui a décidé d'en finir avec ses vieux réseaux Foccart, dont Libreville semble être le cœur. Le nouveau patron des renseignements est certes allé rendre une visite de courtoisie au président Bongo, mais il a décidé de donner un grand coup de pied dans cette fourmilière France-Afrique. Première mesure spectaculaire, il met fin au service de contre-espionnage qui existait en parallèle de celui de l'État et qui était logé chez ELF. plus de services d'influence et de renseignement dans la compagnie pétrolière. Le président Bongo en prend acte. L'ambassadeur de France, Maurice Robert, ancien collaborateur de Jacques Foccart et ancien patron de ce service parallèle de contre-espionnage à Elf, a lui aussi été finalement débarqué malgré le soutien de Marc Bongo. Mais le vieux va réussir, malgré ce refroidissement des relations et l'opposition ouverte de Jean-Pierre Cotte, à faire nommer à la tête de l'ACCT, l'Agence pour la coopération culturelle et technique, le principal outil d'action de la francophonie, un Gabonais. Octobre 1983, un journaliste d'investigation français publie un brûlot dans les librairies. Le titre « Affaires africaines ». Pierre Payan y révèle les relations troubles, souvent compromettantes, entre Paris et certains gouvernants africains, certaines anciennes colonies. Il y évoque les cadeaux, les diamants, les mercenaires, les putschs, les sacres, les financements occultes des partis français, les trafics d'influence, la corruption ambiante dans cet environnement. Le cas gabonais est naturellement mis en avant par le confrère français qui évoque aussi le risque de renversement du néocolonialisme. Affaires africaines est un franc succès en librairie. On ne parle plus que de l'œuvre de Pierre Payan. Le président Bongo est furieux. Pour lui, c'est l'œuvre de la gauche. Il menace Paris de rétorsion. Il est conscient de son poids dans la stratégie énergétique de la France. Il sait également les compromissions dont se sont rendus coupables tous les hommes politiques de la Ve République. Il exige des excuses, et pas n'importe comment, pas du bout des lèvres, non. Il ne viendra pas en France tant que ces excuses ne sont pas clairement faites.
Il faudra que les gens de Paris, à un niveau très élevé, viennent préparer la visite avec moi ici. C'est ce que les Gabonais demandent, parce que nous n'aimons pas de tourisme. Nous avons été insultés, traînés dans la boue, il faut... que toi, Bongo, pour quitter le Gabon, aller en France, il faut la réparation. La réparation sur quoi? Il faudra qu'une autre personnalité vienne ici discuter des termes, comment va se passer cette visite, voilà le programme, je dirais oui ou sur certains points, je dirais non sur d'autres, mais tant que ça ne sera pas fait, ben moi je crois que... Et l'esclave du peuple gabonais, je ne peux pas le décevoir pour ouais. une visite.
Mais vous ne croyez pas que les Français, M. le Président Bongo, vont dire « Monsieur Bongo boude ? Il ne veut pas venir, il boude ?»
Oh, ouais, vous voyez ma figure, là j'ai l'air de quelqu'un qui boude. Mais seulement j'aime que les choses soient claires. Je ne vais pas aller chez nous. Vous savez, les Africains aiment aller chez des amis. Ne veulent pas aller, c'est les gens qui ne les comprennent pas.
Je retiens que vous-même, vous avez envie que la crise se termine, qu'il n'en reste rien, qu'on efface les choses.
Oui.
Et qu'on relance la coopération avec la France.
Et la coopération n'a jamais souffert. Et nous faisons de la politique de co-développement.
C'est dit, une politique de co-développement. Il dit aussi qu'il attend une personnalité de premier plan pour présenter les excuses de Paris après ce qu'il considère comme un outrage, une insulte. Après les négociations, d'abord entamées avec François de Grossouve et Roland Dumas, deux proches conseillers de François Mitterrand qui se sont directement rendus à Libreville pour négocier un compromis, quelques mois seulement après cette grosse colère et cette bouderie, c'est Pierre Mauroy, le premier ministre de François Mitterrand, le chef du gouvernement français en personne, qui vient présenter officiellement les excuses de l'État français à Omar Bongo, à Libreville. Une première dans l'histoire de la relation Afrique-France.
Il y a eu peut-être des incompréhensions dues à certaines personnes. Ben, cela est déjà terminé. Et je crois que les détracteurs de l'action gabonaise et française en auront pour leur compte. Ceci étant, monsieur le Premier ministre, nous vous souhaitons un bon séjour au Gabon. Je sais que le quatrième pouvoir est là. Ils vont déformer tout ce que j'aurais dit. Mais... il faut qu'ils le fassent pour vendre leurs papiers, pour arrondir les fins de mois. Mais il faut quand même être honnête avec soi-même.
Le président Omar Bongo est conforté. Il peut exulter. Il a encore une fois fait plier Paris. On peut maintenant envisager son prochain voyage officiel à Paris. Cette victoire marque aussi la défaite d'une certaine opposition. gabonaise, bien sûr. Mais elle n'a pas dit son dernier mot. Surtout qu'avec la crise qui s'éternise, la colère monte. Et l'opinion internationale a les yeux braqués vers cet émirat pétrolier dont le chef défie son ancienne métropole et où l'on parle de plus en plus de corruption.
Pour que notre pays respire, pour que tout le monde respire, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, pour que tout ce monde-là respire, il faut le multipartisme. Il faut que chacun puisse trouver un cadre d'expression qui lui convienne, qu'on ne lui impose plus un seul cadre. Vous voyez, il y a, sage latin, excusez-moi de citer encore des gens, des étrangers, je crains l'homme d'un livre. On ne peut pas toujours penser à l'intérieur d'un seul cadre aujourd'hui.
Après plus de 18 ans au pouvoir, la seconde partie de la décennie 80 s'annonce mouvementée pour le président Omar Bongo. Il n'imagine pas un seul instant que le vent de démocratie qui souffle à l'Est, que la fameuse perestroïka qui fait tanguer le bloc communiste, risque de le bousculer. Nous en parlerons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Omar Bongo Ondimba, avec quelques acteurs de cette épopée. Et n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de réécouter l'émission sur le site de RFI et de continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook RFI. Archives d'Afrique, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous poursuivons la conversation sur cet autre espace en vous donnant rendez-vous sur l'antenne pour la suite, la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focat, nous vous souhaitons un bon week-end à l'écoute des programmes de RFI. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.